Mardi Politique, en partenariat avec France 24.
Retour dans Mardi Politique avec Frédéric Rivière et notre invité Frédéric Lefebvre, ancien ministre, ancien député de l'étranger pour l'Amérique du Nord et auteur de Chaos, histoire secrète de la guerre des droites chez Michel Lafon. Alors la guerre des droites, on va en parler. Alors c'est vrai qu'on vient de parler des États-Unis. C'est pas mieux là-bas, le House of Cards, comme vous le comparez, hein, l'entente avec les Russes pour déboulonner Hillary Clinton. On a l'impression que chez les Républicains, vous êtes petit bras à côté, même si vous, ça vous a dégoûté de la politique, votre expérience dans votre parti. Alors, dans le livre, vous décrivez toutes ces années de vie politique intense. Vous avez compris qu'à un moment, celle-ci a failli vous tuer. Pourquoi ?
Comment expliquer ? Vous savez, quand on tutoie la mort, on comprend finalement la vie. C'est-à-dire qu'on comprend qu'il faut mettre de l'énergie positive.
Mais pourquoi la politique vous a tué ? C'était ça. Elle a failli vous tuer. Bon, elle ne vous a pas tué. Vous êtes encore vivant, puisque vous êtes là. Mais pourquoi elle a failli vous tuer, vraiment ? Vous avez fait
J'ai fait 7 embolies pulmonaires, infarctus pulmonaire. Mais c'est justement, la réponse n'est pas simple. D'abord parce que la politique, elle vous embarque. Et elle vous embarque totalement. C'est-à-dire que vous ne vous rendez même plus compte que vous sacrifiez, c'est ce que je dis dans le livre, votre propre famille, les gens que vous aimez le plus, finalement, pour une sorte de famille d'adoption dont, en tout cas, moi, la réalité, ça a été une évidence assez rapidement, et je raconte ma rupture par épisode avec Nicolas Sarkozy, mais dont la réalité vous montre que, finalement, cette famille, elle n'existe pas, c'est un mirage. Et donc, du coup, évidemment, c'est un choc, parce que, d'une certaine manière, ce sont les plus belles années de votre vie que vous donnez. C'est-à-dire que, quand moi, j'ai accompagné Nicolas Sarkozy, moi, je l'ai rencontré, j'avais 18 ans, mais quand je l'ai accompagné et que je l'ai conseillé, j'avais 25 ans, et jusqu'à un peu plus de 35 ans, j'étais à ses côtés, et j'ai mis toute mon énergie pour qu'il soit élu, à une époque où il nous écoutait, à une époque où, comme il était dans la conquête, il essayait de nous faire croire qu'il nous aimait. Et ensuite, quand la victoire commençait à poindre et qu'elle était sûre, il a commencé à se détourner de nous. Et ce qui a été terrible, je raconte dans le livre.
Mais c'est ça qui vous a rendu malade, je veux dire, ça vous a affecté, vous a bouleversé finalement. Parce que c'est vrai que vous parlez de cette relation avec Nicolas Sarkozy quasiment comme d'une histoire d'amour qui a mal fini. Mais vraiment, d'ailleurs, je crois que vous employez même le terme au fond. Il y a vraiment quelque chose qui est du registre de la déception amoureuse profonde. Vous dites que l'un des plus gros traumatismes que vous avez vécu, c'est de ne pas avoir été invité à la cérémonie d'investiture de Nicolas
Sarkozy.
Je raconte
des choses qui sont, enfin, pour les je vois les témoignages des lecteurs, hein, parce que les gens viennent m'en parler. Ce qui frappe beaucoup les gens, c'est que notamment ceux qui suivaient beaucoup Nicolas Sarkozy dans cette ascension, et vous avez rappelé la firme tout à l'heure, quand j'amenais Nicolas Sarkozy jusqu'au pupitre, tous les gens me voyaient sur les images l'accompagner. Quand j'étais avec lui dans la loge quelques minutes avant, nous n'échangeions plus un mot. Il ne me parlait plus.
Vous n'existiez plus.
Non seulement je n'existais plus, mais c'était même pire que ça. C'est une forme de mépris et de violence. Alors je raconte après beaucoup d'autres épisodes. Les gens pensent que... parce que les gens sont très surpris, c'est-à-dire que...
Voilà, il faudrait peut-être rappeler en un mot que tout ça était lié à la rupture avec Cécilia, parce que sinon c'est vrai que c'est un peu incompréhensible.
Cécilia Sarkozy, en réalité, qui a quitté Nicolas Sarkozy, fait que, et beaucoup de gens se souviennent de ce moment, Nicolas Sarkozy était devenu une flaque d'eau. Il était même plus... il voulait même plus être candidat. En réalité. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait, son équipe rapprochée ? On l'a maintenu en état d'être candidat. On l'a fait pour lui, bien sûr, on l'a fait pour le pays, mais on l'a fait aussi parce que c'était un combat que nous menions depuis tant et tant d'années. Mmh. Et comme nous tous, quand on a des amis qui divorcent, quand l'un pense que vous avez pris parti pour l'autre, Il vous en veut à mort.
Pourtant, vous disiez que vous entendiez bien avec
Cécilia. Mais très bien avec Cécilia, au contraire.
Et elle vous a mis dans le même paquet
mais,
que Pierre
mais justement,
Charron,
je pense qu'elle m'en a voulu
Soli,
sans doute
Louvrier.
Encore plus qu'à d'autres. Puisqu'elle a considéré que, en fait, on avait pris parti pour Nicolas contre elle. Mais ce n'était absolument pas le cas. On voulait simplement que Nicolas Sarkozy ne nous échappe pas.
Oui, et vous dites d'ailleurs que Nicolas Sarkozy, à un moment, ne vous voit plus que quasiment clandestinement.
Oui.
Et vous dites un peu comme une maîtresse qu'on essaye de voir à la dérobée.
Tout à fait. Et je raconte cette scène un peu hallucinante où il était fébrile parce que j'avais demandé à le voir. Sa secrétaire, j'avais pas dit pourquoi. Et en fait, il a été soulagé quand il a vu que c'était simplement pour lui dire « Monte un dîner, c'est toi le candidat, tu peux pas laisser commencer à s'ébruiter que ton équipe est totalement divisée. » Et donc, il a compris à ce moment-là que j'irai jusqu'au bout de l'aventure, malgré ce que je subissais. J'ai été écarté de toutes les réunions stratégiques alors que je faisais partie de toutes les réunions avant. Donc c'est des moments extrêmement violents, d'une très grande brutalité.
Vous écrivez « L'ivresse du pouvoir change l'homme, celle du pouvoir suprême le dénature ». Est-ce que on voit que Nicolas Sarkozy n'y a pas échappé ? Est-ce que Emmanuel Macron pourra y échapper ? Vous le connaissez un peu aussi ?
Oui, je le connais. J'échange avec lui. Je raconte d'ailleurs dans le livre un entretien avant même qu'il décide définitivement d'être candidat, où il voulait me jauger un peu et essayer de comprendre la relation Chirac-Sarkozy, puisque lui se projetait sur la relation avec Hollande. Donc c'est, en plus, c'est, symboliquement, c'est amusant, parce que c'était le 10 mai, ce rendez-vous. Et écoutez, on va voir. Moi, je trouve que pour le moment, en tout cas,
ça dénature, c'est intéressant comme sujet.
Mais ça dénature.
Que vous dites vous-même, j'étais égocentrique, je me suis égaré, j'ai couru après l'illusion du pouvoir. Donc il y a bien quelque chose que le pouvoir vous transforme, mais pas de la bonne manière.
Le pouvoir, en fait... laisse penser que, parce que c'est une course, qu'on va pouvoir, comme le mot l'indique lui-même, que l'on va pouvoir faire tout ce que l'on veut faire.
C'est la toute-puissance, en fait.
Alors, ensuite, vous avez c'est la toute-puissance. Ensuite, vous avez des gens qui, cette toute-puissance, vont s'en servir pour de formidables causes. Vous avez des gens qui, au contraire, parce qu'ils ont des côtés qu'ils avaient pu masquer quand ils étaient dans la conquête, parce qu'ils pensaient qu'ils étaient jugés, qui au moment où ils ont le sentiment qu'ils sont devenus dans presque un sentiment d'impunité, de puissance totale, se retrouvent finalement à commettre des erreurs qui peuvent être des erreurs graves. Mais en même temps, je dis dans le livre, pour corriger un peu cet aspect très négatif, en parlant de François Hollande, parce que je raconte plusieurs entretiens secrets que j'ai eus avec François Hollande quand il était président, je raconte qu'en fait, il m'a réconcilié d'une certaine manière, parce que je me suis rendu compte qu'il avait gardé son humanité.
Oui, vous le dites.
Et j'étais, ça m'a d'ailleurs surpris, en réalité. Parce que j'ai tellement vu, avant Nicolas Sarkozy d'ailleurs, Chirac ou... mais j'ai tellement vu avec Nicolas Sarkozy un changement profond de nature humaine que je pensais, avant de voir François Hollande régulièrement, que c'était automatique, qu'il n'y avait pas d'autre... Et je pense que ce n'est pas si simple. Et donc, vous avez raison, on va voir. On va voir avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, aujourd'hui, est dans sa première année. C'est très tôt pour
juger. Les présidents de la République, est-ce que ce sont des versions modernes de Faust ? Enfin, c'est un peu...
Oui.
Ça me traverse l'esprit, mais,
oui, mais je trouve
signer avec...
je trouve que l'image est...
Le diable.
Oui, qui vend leur âme au diable.
Oui, oui, l'image est belle parce qu'elle est malheureusement souvent très juste. C'est-à-dire que... Je raconte dans ce livre comme, par exemple, Nicolas Sarkozy a pu être un formidable président au moment de la crise. Et d'ailleurs, tout le monde l'a reconnu. Mmh. Même si après, on peut critiquer telle ou telle solution. Mais je raconte aussi comment ensuite, comme si... Alors, j'emploie pas le mot « repos du guerrier » parce qu'il est à connotation sexuelle, mais disons qu'il rentre dans une phase où il ne s'occupe plus que de lui-même, de son intellect, c'est là où il commence. Alors, vous savez, il est hypermnésique. Oui. Donc, du coup, il se met à avaler toute la littérature du 19e comme il connaît le cyclisme par cœur.
Auquel il ne connaissait rien 10 minutes avant, mais il peut tout
absorber.
C'est
cette capacité à ingurgiter. Et donc, il fait ça parce que, pour travailler son intellect, mais il se met à faire des joggings plusieurs fois par jour,
à
travailler son corps. Hyperactif, hypermnésique, tout ce qu'on veut, mais surtout...
Hyper président.
Surtout, c'est là où il y a une forme... Le narcissisme fait que, au lieu d'être au service du pays, des citoyens, et finalement de servir l'idée qu'on s'est faite soi-même au moment où on s'est engagé, on finit par se perdre totalement. Mmh. C'est pour ça que la comparaison, je trouve, est intéressante, parce qu'on se perd et on se brûle les ailes.
Narcisse. Alors, je voudrais qu'on évoque un instant un parallèle entre Donald Trump et Nicolas Sarkozy. Parce que vous dites dans le livre que Donald Trump, il y a une chose qu'on peut lui reconnaître, je vous cite d'ailleurs, c'est d'avoir choisi la fulgurance outrancière, sans avoir peur d'ailleurs, dites-vous, de tâcher sa cravate, l'expression vous appartient, plutôt que la manigance sournoise. Et dans le même temps, dans votre livre, vous déplorez, vous condamnez même souvent les outrances de Nicolas Sarkozy, qui, il faut le reconnaître, était bien souvent finalement un peu du petit lait à côté de ce qu'a pu dire Donald Trump. Alors pourquoi vous êtes aussi indulgent avec Donald Trump et aussi sévère avec Nicolas Sarkozy? Est-ce que ça voudrait dire que Nicolas Sarkozy a ajouté à l'outrance la manigance?
Non, d'abord, ma sévérité avec Nicolas Sarkozy, vous voyez bien qu'elle est d'une
sur
nature...
Sur la dérive droitière, et ce que vous appelez la jungle buissonnière, voilà. Allusion à Patrick Buisson, voilà. c'est dur quand même.
Mais voilà, justement, j'y viens, c'est que...
Mais Donald Trump aussi a fait une campagne extraordinairement à droite.
Oui, oui, mais
l'interdiction du territoire aux musulmans,
non, mais attendez, je suis pas du tout moi. Ne faites pas la même confusion que les équipes de Donald Trump. Moi, je suis pas devenu fan de Donald Trump. Je ne l'étais pas avant. Je ne le suis pas aujourd'hui. Et quand je fais la comparaison, effectivement, c'est que ce qui est intéressant dans et vous avez pas tort. Il y a des points communs d'ailleurs dans cette sorte de fulgurance, de cette provocation, de cette incapacité à gérer ses propres émotions et
des pulsions parfois,
des pulsions. Ouais. Donc il y a des points communs, certes. Mais si je suis dur dans ce livre avec Nicolas Sarkozy,
parce que vous avez été déçu.
D'abord, c'est parce que j'ai été déçu, mais surtout je suis dur sur quelque chose que je vis comme une trahison suprême. Pas tellement. J'ai été blessé, je l'ai dit, et je l'ai vécu dans ma chair. Et ça a été douloureux sur le plan personnel, la blessure de l'amitié. Mais pour moi, ce qui est presque pire, quand on fait de la politique, quand on s'est engagé, c'est justement ce pacte avec le diable, en l'occurrence, qu'il a fait. C'est-à-dire, et j'appelle dans un chapitre que j'appelle la martingale, il finit par ne même plus s'écouter lui-même. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy, quand je l'ai connu quand il était jeune, c'est un homme qui avait une intuition incroyable sur le plan politique. Là, il s'est tellement mis dans les bras de son gourou Buisson qu'il a perdu tout recul.
Cette emprise qu'a eu Patrick Buisson sur Nicolas Sarkozy.
Mais j'ai du mal à me l'expliquer, pour tout vous dire. Mais elle a commencé très tôt, en fait. C'est ça que je raconte dans le livre qui peut surprendre. C'est qu'en fait, il est arrivé dès 2006, en réalité.
Mais ça marche en 2007, cette stratégie.
Oui, mais en 2007, c'est ce que je dis dans le livre.
À
l'époque, n'oubliez pas aussi que c'est moi d'ailleurs qui théorise l'ouverture à gauche, qu'il a construit même, plus que la théoriser, puisque comme conseiller de Nicolas Sarkozy, c'est d'où les amitiés que j'ai pu nouer avec beaucoup d'hommes et de femmes de gauche tout au long des postes ministériels de Nicolas Sarkozy, je théorise ça. Donc à l'époque, en fait, en 2007, il est sur deux jambes, une jambe droite et une jambe gauche. 2012, il est sur une jambe droite bodybuildée et une jambe gauche atrophiée, et 2017, il est unijambiste de la jambe droite.
Frédéric, j'allais vous appeler Frédéric Rivière, hein, je m'y perds, mais Frédéric Lefebvre, donc vous dézinguez dans votre livre Laurent Wauquiez, surnommé chez les Républicains le tueur Judas, le narcissique obsessionnel, le Laval au petit pied, et vous citez une phrase terrible du fils de Jacques Barrault, Jean-Noël Barrault: il n'est embarrassé de rien, il n'a aucune espèce de morale, c'est une âme terrible. Il est tout seul, Laurent Wauquiez.
Vous savez, je connais très très bien Jacques Barrault. Je parle, vous voyez, au présent, alors qu'il nous a quittés. C'est un homme avec qui j'ai partagé beaucoup. Il était président de la commission des finances quand j'étais tout jeune, conseiller de Nicolas Sarkozy. Et peu avant sa mort, il m'a fait cette confidence que son plus grand remords, c'est d'avoir mis le pied à l'étrier à Laurent Wauquiez. Parce que Laurent Wauquiez, c'est un, j'emploie ce terme dans le livre, un capteur d'héritage. Et pour devenir député, il n'y avait pas plus centriste que Laurent Wauquiez. Et d'ailleurs, je raconte une anecdote assez amusante dans le livre, puisque à l'époque, il vient se vendre auprès de moi pour essayer de se rapprocher de Nicolas Sarkozy.
Parce qu'il est oui, une sorte de colo basque à l'époque.
Parce qu'au début, il était une sorte de bébé Chirac et il se dit, bon, bah, je peux peut-être monnayer ça. Et donc, il vient expliquer qu'il est le plus centriste, le plus social, ce qui n'est pas pour me déplaire, moi, parce que ma filiation, c'est Chaban, en fait, ce que je raconte dans le livre. Et puis, je découvre que tout ça, en réalité, c'est du bullshit, comme il l'a très bien dit à Lyon. Et ensuite, il devient, pour devenir ministre, plus sarkozyste que Sarkozy. Et aujourd'hui, ce que je raconte dans le livre, ce qui est quand même absolument terrible, c'est que pour devenir président, parce qu'il s'est mis dans la tête qu'il pourrait être président...
Mais il est déjà devenu président des Républicains.
Mais c'est... De la République, ouais. je vous rassure, ça ne s'arrête pas au président des Républicains. Et donc, il est prêt à devenir un représentant de la droite identitaire la plus dure. Je raconte dans le livre, j'ai l'impression parfois que ça passe complètement inaperçu. Et pourtant, il l'a fait au micro d'une grande radio, RTL, c'est le grand jury. Sa référence était Renaud Camus, qui est un Auvergnat comme lui, qui est un des prétendus philosophes...
C'est
un écrivain, ouais. Mais je dis prétendu ouais. Philosophe...
Penseur, ouais.
Penseur de l'extrême droite, avec sa fameuse théorie du grand remplacement, ouais. que Wauquiez reprend à son compte. Et je raconte dans le livre comment, avec des proches à lui, je pense par exemple à Charles Millon, qui est son allié rhône-alpin, et qu'on connaît, hein, puisque ancien ça fait partie des gens que nous avions virés avec Nicolas Sarkozy et Philippe Seguin quand il avait fait alliance avec le Front National pour garder la région Rhône-Alpes. Donc il a une histoire assez longue, Charles Millon. Eh bien, Charles Millon, Charles Bête-Bédé, qui est défenseur de cette unité des droites, avec les plus proches de Marion Maréchal Le Pen, ont fait naître une revue d'extrême droite qui s'appelle L'Incorrect, parce que tout ça... C'est en fait ce qui est en train de se construire de manière souterraine, pendant que on vous présente sur le plateau le bullshit quotidien.
Oui, c'est l'alliance, une alliance forcément qui arrivera parce que pénurie, on va dire, et par survie politique, non ?
Mais par survie politique, parce qu'en fait, l'analyse de Wauquiez est très froide.
La droite et l'extrême droite.
L'analyse froide de Wauquiez, c'est quoi ? C'est de dire, Macron nous a piqué le centre. Et donc, c'est pour ça que Wauquiez ne pleure pas quand il voit que moi, ou j'ai été le premier le 8 juin, mais il y en a plein d'autres depuis, nous avons quitté les Républicains, parce qu'il considère que de toute façon, cet électorat-là est perdu, a été capté par Macron. Donc, sa seule chance, et son analyse, c'est l'Autriche, c'est de faire une opération à l'autrichienne, avec alliance de la droite dite classique avec l'extrême droite, ou à l'italienne Silvio, ouais. Mais moi je dis que ça va se terminer comme Silvio Berlusconi, c'est-à-dire que...
Mais donc ça veut dire que sa stratégie peut marcher ?
Non, parce que
Silvio Berlusconi, il a été plus d'une fois au pouvoir.
Oui, sauf que là, il s'est fait croquer par l'extrême droite. Et moi je vous dis que Wauquiez va se faire croquer par Marion Maréchal Le Pen. Et c'est amusant
tout
parce
cru,
que...
Tout cru d'ailleurs, vous dites.
Tout cru, parce que quand Marion Maréchal Le Pen, qui... a parfaitement analysé la stratégie d'Emmanuel Macron, décide de prendre ses distances avec la vie politique. Je raconte aussi que chez les Le Pen, le pouvoir, on se le passe, le flambeau, on se le passe en famille. Mmh. Marine Le Pen, aujourd'hui, elle a déjà quitté virtuellement le leadership du Front National. Déjà. Elle sait déjà que celle qui va lui succéder, c'est Marion Maréchal Le Pen. Elle fait le travail de transformation du nom du Front National. Marion Maréchal Le Pen est en train de prendre ses distances, monte une sorte d'université un peu intellectuelle. Elle veut travailler, elle fait un peu à la Macron, elle se met un peu à l'écart, avec l'objectif évidemment de revenir. Et celui qui va se faire croquer, c'est Wauquiez, qui lui est empêtré dans ses mensonges permanents, c'est ce qu'on a vu à l'EM Lyon, c'est du Wauquiez tout craché. Il finit par s'en mêler, parce qu'il dit un truc publiquement, et il fait l'inverse par en dessous.
Voilà. Eh ben,
triste personnage.
Je voulais être sûr que vous aviez fini votre propos. On a bien le point final. L'émission est terminée. Merci à tous et on se retrouve mardi prochain, Roselyne.
Absolument. Merci.
Bonne soirée.